Radio Prague, les informations.
Mirek Topolánek défendra le poste de président du Parti civique démocrate et procédera au changement à certains postes de ministre de son cabinet. Le chef de l'ODS et du CSSD laissent entendre une conciliation pendant la présidence tchèque de l'Union européenne. L'opposition social-démocrate veut réduire le plan des missions à l'étranger. À une conférence de presse exceptionnelle donnée dimanche avant midi, le Premier ministre Mirek Topolánek a officiellement annoncé sa décision de défendre le poste de chef du Parti civique démocrate, ODS, au prochain congrès qui aura lieu à la mi-décembre. Conscient de sa responsabilité personnelle, du résultat des récentes élections régionales et sénatoriales, dans lesquelles ODS a essuyé une défaite, le chef de l'ODS et du gouvernement s'est toutefois déclaré prêt à défendre le programme du cabinet. Des changements dans certains postes seront nécessaires, a-t-il également annoncé, sans indiquer pour l'instant des noms concrets. Une position conciliante et plus ouverte en rapport avec la présidence tchèque de l'Union européenne a été exprimée par le chef de l'opposition social-démocrate Jiří Paroubek. L'invité d'un débat dominical de la télévision Prima, Jiří Paroubek a laissé entendre un ton plus modéré et sans confrontation dans les rapports des deux plus grands partis politiques tchèques, l'ODS et le CSSD, en rapport avec la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne, en excluant cependant qu'une coopération plus profonde entre les deux partis se prépare. Après que son parti avait plusieurs fois déclenché le vote d'une motion de censure, Paroubek a déclaré ce dimanche que tant que l'actuel cabinet de Mirek Topolánek corrigera sa politique, il pourrait rester en fonction jusqu'aux élections législatives de 2010. Le plan d'action de la République tchèque dans les missions à l'étranger pour 2009 prévoit de renforcer de 200 soldats la présence tchèque en Afghanistan, en sorte qu'un total 700 hommes opéreraient dans cette région. Le projet sera débattu à la Chambre des députés d'ici 3 semaines, mais d'ores et déjà, la social-démocratie a fait savoir qu'elle ne soutiendrait pas l'accroissement du nombre de soldats envoyés dans des missions à l'étranger, premièrement pour des raisons financières, ensuite, compte tenu des risques de sécurité. Le 2 novembre est selon la tradition catholique le jour de la commémoration des fidèles défunts. Les Tchèques consacrent ce jour à la visite et à l'entretien des tombes de leurs proches. Des milliers de bougies et de pots de chrysanthèmes décorent ces jours-ci des tombes. Une messe pour commémorer le jour des morts a été célébrée par le cardinal Miloslav Vlk à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul à Vyšehrad. Au championnat d'Europe de cyclocross organisé à Liévin en France, la Tchèque Kateřina Hanouchová Nachova a décroché la médaille de bronze devant la Française Meryl Salvetta et la victorieuse Hanka Kupfernagel d'Allemagne. Lundi, jour de la fête des Hubert, un temps brumeux continuera à régner sur notre territoire. Les températures se situeront entre 11 et 13 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Jarka Gisublova.
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour, c'est mercredi que s'est achevée la 12e édition du Festival international du documentaire de Yerlava, après la soirée de clôture du 28 octobre qui a révélé le palmarès des films vainqueurs pour 2008. Alors dans cette émission, je vous propose de découvrir un peu mieux ce festival qui s'est venu plateforme, un pivot en Europe centrale où convergent et se rencontrent les créations de documentaires d'Est et d'Ouest. C'est un drôle de symbole que celui du festival de Yerlava. En effet, c'est un entonnoir qui est la mascotte de ce rendez-vous annuel depuis 12 ans. Une curiosité que décrypte pour nous le directeur du festival, Marek Hovorka.
Protože vlastně vy ho můžete používat velmi kreativním způsobem a vždycky vám nějakým způsobem jakoby C'est parce qu'on peut utiliser un entonnoir de manière très créative et un entonnoir peut vous aider. En le mettant contre son oreille, on entend mieux. Si vous le mettez à la bouche, on vous entendra mieux. Si vous regardez le monde à travers l'entonnoir, quel que soit le bout, vous le verrez autrement. Cette découverte ludique du monde est une sorte de métaphore de la manière dont nous souhaitons que le festival fonctionne. Les films présentent souvent des thèmes importants, mais souvent de manière surprenante. Pour nous, il est important que les gens ne sortent pas du cinéma déprimés, mais avec une nouvelle vision du monde. Le cinéma ne peut pas changer le monde, mais il peut changer les spectateurs.
En 12 ans, Yerlava est devenu un rendez-vous important du documentaire en Europe centrale, mais comme le rappelle le journaliste critique de cinéma au quotidien Pravo, Michal Prochaska, pour comprendre l'esprit du festival de Yerlava, il faut remonter à ses origines.
Je crois qu'il faut d'abord revenir à l'époque où le festival était fondé. Ce qui était très important, c'était le festival fondé par les étudiants de FAMU eux-mêmes qui ont essayé de créer quelque chose qui irait fonctionner pour le cinéma documentaire parce qu'il n'y avait rien à l'époque. Cette espèce scolaire, cette espèce étudiant, cette espèce de jeunes gens qui étaient les amateurs du cinéma est très important. Le festival, c'est le festival sans vedette, sans publicitaire, sans d'espèces commerciaux. Je crois que c'est le festival qui essaye de combler une espèce alternative, avant-garde, peut-être off-mainstream de la République tchèque. Et c'est le festival qui est aussi le point de départ pour beaucoup de cinéastes, pour beaucoup d'étudiants tchèques, qui ont de l'occasion de présenter leur premier film, leur premier petit documentaire, mais aussi le premier film expérimental. Et c'est aussi, c'est le festival qui est d'une façon très ouvert et très démocratique en tant que de rencontre entre le public et le réalisateur, parce que il y a une ambiance, une atmosphère assez libérale, assez informelle.
Pourtant, certains habitués du festival avouent que l'esprit originel de Yerlava tend quelque peu à disparaître à mesure que le festival prend de l'ampleur, comme le regrette cette étudiante. Moi, je ne vais pas aux autres festivals de cinéma que je trouve trop commerciaux, mais ces derniers temps, j'ai peur que c'est ce qui arrive aussi à Yerlava. Quand on a commencé à venir ici, c'était plus petit et plus alternatif. J'ai l'impression que la visibilité du film documentaire est beaucoup plus importante depuis quelques années. Est-ce que vous pensez que, par exemple, en République tchèque, ce festival y a contribué particulièrement, j'allais dire, dans les salles de cinéma, hein, parce que finalement, on voit de plus en plus de films documentaires dans les grandes salles de cinéma, dans les salles de cinéma, mais aussi à la télévision, bien sûr.
Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y en a plusieurs films documentaires dans les salles de cinéma, et c'était bien différent qu'avant, parce que avant il n'y avait rien. Mais quand même, je crois que c'est toujours difficile de parler de business par rapport au cinéma documentaire parce qu'il s'agit de projets sans des possibilités de gagner de l'argent. Il s'agit de projets soutenus par la télé. Je crois que le cinéma documentaire, ça fait des années, a subi beaucoup de problèmes de s'imposer à la distribution. À la distribution tchèque, mais aussi européen. Et je crois que des festivals, le festival de Yerlava, par exemple, est à mettre en valeur le cinéma documentaire qui peut subsister, qui peut exister quand même, malgré tout, malgré les formats. Je crois que le festival de Yerlava puisse attirer l'attention au cinéma documentaire, puisse soutenir les formes de production, comme on peut voir ici, dans le cadre de East Silver et d'autres. Et le festival aussi puisse trouver vraiment des modes de distribution parce que c'est bien difficile de trouver une place de mettre le film.
C'était le critique de cinéma Michal Prochaska et pour Marek Hovorka, le directeur du festival, la plus grande visibilité du cinéma documentaire a plusieurs explications.
Rani film,
Dans une certaine mesure, le cinéma de fiction, en République tchèque très certainement, mais ailleurs aussi, est en crise. Et les films de fiction qui ont du succès sont très influencés par le mode documentaire de tournage et d'appréhension du jeu d'acteur. C'est lié au changement technologique. Aujourd'hui, c'est très simple de réaliser un film documentaire. Du coup, il y en a plus et il trouve plus facilement un public. Sinon, je pense que le documentaire doit aussi beaucoup à Michael Moore. Rozšířeném
zájmu o dokument má třeba Michael Moore. Récemment, en France, il y a eu ce festival, il me semble le festival de Lussas, qui était les états généraux en fait du film documentaire, où la République tchèque était très bien représentée. J'avais discuté à l'époque avec son directeur artistique, qui m'avait dit que c'était intéressant parce que quand on voyait la création des documentaires des jeunes réalisateurs qui sortent de la FAMU, ils ont des techniques très différentes ou une formation très différente, très spécifique par rapport à d'autres écoles. Est-ce que vous pourriez un petit peu préciser et en quoi justement ça fait la richesse de la création tchèque?
Oui, d'abord, il faut dire que nous, ici, en République tchèque, nous avons parfois l'impression d'être négligés en tant que la culture, entre les grandes cultures occidentales et la culture, par exemple, russe ou de l'Extrême-Orient. Alors que si on regarde les films documentaires, on a l'impression que ce sont beaucoup plus intéressant que le cinéma de fiction, par exemple. Et je crois que maintenant on peut parler d'une école de cinéma documentaire à FAMU, parce que les étudiants de Karel Vachek ont trouvé beaucoup de courage d'expérimenter, de chercher d'autres modes d'emploi, d'autres modes de filmer. Mais ce qui est aussi le thème, quand on regarde beaucoup de films documentaires dans la télé, notamment dans la télé occidentale, on voit que tout était formaté. Ici, nous sommes toujours attachés à certaines formes du cinéma documentaire comme un film d'auteur.
C'était encore le critique de cinéma Michal Procházka. Alena est étudiante et une fidèle du festival de Jihlava. Je viens de voir le film Noël en Bosnie de Raimunda et Krusak. Jusqu'à présent, je n'ai jamais été déçue par leur film. C'était court, drôle et je ne me suis pas ennuyée. Noël en Bosnie, c'est un petit opus cinglant du duo Krusak-Raimunda, les enfants terribles du documentaire tchèque, rendu célèbre par leur film Le rêve tchèque, qui a été également en distribution en France. Dans le court documentaire qu'ils présentaient à Jihlava, ils ont suivi un groupe de stars de la pop tchèque parti donner un concert de Noël en Bosnie aux soldats tchèques stationnés dans le pays en 2001. Le décalage joue à plein dans ce documentaire. Noël en Bosnie était en compétition dans la section La joie tchèque, mais n'a pas été retenu par le jury. Avant l'annonce du palmarès, je m'étais entretenue avec un des membres du jury, une théoricienne et critique de cinéma américaine, Alice Lovejoy, aussi à l'aise en tchèque qu'en français. L'occasion d'évoquer son rôle, mais également la section documentaire dont elle avait la charge dans le festival.
Ouais, je suis sur la jury. C'est seulement une section de 17 films tchèques qui étaient faits pendant la dernière année. Et nous sommes 5 sur le jury et on choisit un film qui va gagner un prix pour le meilleur film tchèque.
Vous avez des critères un petit peu personnels qui vous guident?
Je pense que mes critères sont esthétiques et aussi plutôt formels. C'est une question formelle, c'est aussi une question de si le film est intéressant, si ça marche. C'est difficile à répondre à ces questions-là, mais
un peu plus sur votre travail, parce que vous travaillez vous particulièrement sur le cinéma. Est-ce que vous pourriez un petit peu me présenter c'est une thèse de doctorat, je suppose, ou c'est ça un petit peu votre travail? Vous travaillez justement sur le cinéma.
Oui, c'est ça. Je suis une doctorante à l'université Yale aux États-Unis et je fais mon doctorat dans le département de littérature comparée et du film. Et j'écris sur le studio d'armée, le studio du film d'armée ici à la Tchécoslovaquie entre 51 et 71. C'est une histoire d'une studio qui a transformé d'une studio qui faisait des films plus ou moins propagandistiques jusqu'à un festival, un studio qui faisait des films artistiques. Et donc ce que je fais ici à Irala, c'est que j'ai quatre sections de films qui décrivent cette transformation. La première, on a vu cinq films des années 50 dans le studio, ce qui sont des films qui sont du propaganda, mais à la même temps, on voit les films qui étaient faits par des réalisateurs très bien connus ici, donc František Vlachil et les autres qui étaient dans le studio à la même temps, c'était Wojciech Jasny, Karol Kachinia, donc c'est une histoire d'une studio qui fonctionnait sur deux niveaux. Un niveau, c'était le niveau militaire, et l'autre niveau, c'était le niveau artistique. Et donc, on a vu quatre films des années 60. C'était des films documentaires. On a eu deux réalisateurs avec nous qui ont décrit leur travail dans le studio. C'était Karel Vachek et Rudolf Adler. Et tous les deux sont des profs à FAMU, dans le département de documentaire. On va voir les films qui était fait pendant le temps entre 68 et 71. Et ce sont des films documentaires aussi, et c'est très, très intéressant parce que les films sont plus radicales qu'on peut penser.
Comment se fait-il que ces réalisateurs se trouvaient dans ce studio? Ils faisaient leur service militaire à ce moment-là?
Ouais, c'était ça. C'était une manière de faire le service militaire. Et ils étaient plus ou moins, ils avaient de la chance d'avoir l'opportunité de faire leur service dans ce studio-là.
Finalement, ces grands cinéastes, Wojciech Jasny, Karel Vachek, ont fait leur premier pas en tant que cinéastes, finalement, dans ce studio-là, en fait. Et après, quel est un peu leur parcours aussi après, par exemple?
C'était pas toujours la première étage de leur carrière, parce que la plupart de ces cinéastes-là ont commencé leur travail à FAMU. Mais après ça, ils ont continué de faire leur travail au studio d'armée, et puis de continuer à Kratky Film ou à Barrandov. Donc il y avait beaucoup de pistes, on peut dire, mais c'était toujours à la commencement de la carrière.
Bye Bye Shanghai était un autre film présenté à Yerlava. La documentariste Yana Bokova, qui vit en Argentine, est allée se confronter à la problématique de l'exil en allant interroger des Tchèques qui ont émigré sous les années de communisme. Certains étant revenus à Prague après 1989, d'autres étant restés dans leur pays d'accueil. Un documentaire déjà présenté en première à Karlovy Vary en juillet dernier, où l'on retrouve de grandes figures de l'exil comme Vladimir Třešňák, Petr Král, Václav Bělohorský et bien d'autres. Voilà, c'est tout pour le tour d'horizon du Festival du documentaire de Yerlava. Vous pouvez consulter le palmarès sur le site du festival www.document.yerlava.cz. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc, Alain Slivinsky.
Cela n'arrive pas si souvent en Tchéquie ou même dans d'autres pays. Il y a quelques semaines, deux agglomérations tchèques ont changé de statut. Elles n'étaient que des villages, elles sont redevenues des villes. Naturellement, ce ne sont pas de grandes villes, mais de petites communes qui comptent dans les 1000 habitants seulement. Et quels sont les noms de ces nouvelles villes sur la carte de la République tchèque? Nous devons dire que pour un étranger, la prononciation n'est pas des plus faciles. Donc attention, les deux nouvelles villes s'appellent Nalžovské Hory et Nasavrky.
Nataja novém zelený vršek, zahřímalo tam, že bude pršet. Holajdi ajdo, že bude pršet. Holajdi ajdi ajdo, že bude pršet, jen se bude lít. Je ta má milá, musím pro ní jít. Holajdi ajdo, musím pro ní jít.
Il est intéressant d'apprendre que les deux agglomérations ont déjà bénéficié du statut de ville dans le passé. Elles l'avaient perdu pour un certain temps en raison du fait qu'elles ne comptaient plus assez d'habitants, selon la législation de la République tchèque, pour prétendre au statut de ville. Pourtant, la Chambre des députés, qui a la seule habilité à décerner le titre de ville aux agglomérations de la République tchèque, a décidé de rendre ce statut de ville à Nasa Vrki et Naljovské Hory à partir du 9 octobre 2008. La première ville nouvelle se trouve dans la région de Chrudim, en Bohême centrale, et la seconde en Bohême du sud-ouest, une région hautement touristique. En plus de cela, la Chambre des députés a élevé au rang de bourg, donc miestis en tchèque, les agglomérations de Brodce, en Bohême centrale, de Mikulice et Lukov dans la région viticole de Znojmo, en Moravie du Sud, de Malchice en Bohême du Sud, de Novi Rychnov dans la région de Plejimov et de Veverska Bitiška, non loin de Brno, en Moravie du Sud. Et en plus de cela encore, la localité de Unhošt en Bohême centrale a le droit, à partir du 9 octobre, de hisser son drapeau municipal. Nous allons tout d'abord nous intéresser à la ville nouvellement déclarée de Nasa Vrki. Elle s'étend, comme nous l'avons déjà dit, dans la région de Chrudim, à la limite en fait de la Bohême centrale et de la région du plateau tchéco-morave. Pourquoi l'avoir choisie? Parce qu'une association locale qui s'appelle BOI est des plus actives dans la promotion des racines millénaires de la communauté locale. Le panorama de la ville est formé par l'église, le presbytère, le bâtiment reconstruit dans l'ancienne prison, la mairie et naturellement la fierté de la ville, le château. Ce dernier est entouré d'un vaste parc où des chênes plusieurs fois centenaires se sont conservés. Nous sommes en automne et nous pouvons donc recommander aux visiteurs d'aller faire une petite promenade dans le parc des châtaigniers. Il s'agit d'un site naturel protégé appelé Gashtarna. La commune de Nasa Vrki s'est fait une réputation par sa fabrication de bonnets et de chapeaux. Le siège de l'entreprise, qui les fabrique toujours, se trouve sur la place de la ville. Nous vous recommandons d'y faire un tour, et si vous continuez en descendant vers le bas de la commune, vous vous retrouverez dans un magnifique parc qui porte le nom du premier président de la République tchécoslovaque indépendante, Tomáš Garrigue Masaryk. La commune de Nasa Vrki se trouve au centre d'une réserve naturelle, celle des Železné Vrchy. Elle abrite aussi le bureau administratif de cette réserve, très recherchée par les admirateurs de la nature. La commune de Nasa Vrki, qui s'est aussi rendue célèbre par les nombreux vestiges de la civilisation celte, qui s'y trouve directement ou dans ses environs. Pour faire connaître encore plus les origines celtes des habitants de la région, l'association à but non lucratif BOI a réalisé une émission diffusée par la station régionale de la radio tchèque Pardubice le 23 octobre dernier. En plus de cela, elle s'est lancée dans le cinéma, en produisant un film sur l'histoire des Celtes qui accompagne la visite du musée en plein air local. Le titre du film est explicite. Il s'appelle « L'histoire de la pierre ». Nous vous proposons maintenant une petite partie sonore de la bande annonce. L'histoire de la pierre. Comme le veut l'histoire, les Celtes étaient de brillants combattants, et bien naturellement, la plus grande partie de l'histoire relate les exploits des guerriers celtes des alentours. À noter que le nom même de l'association est très proche de l'appellation originale des habitants de la Tchéquie, disons plutôt de la Bohême, donc les Bohis, les Bohiens, enfin les ancêtres de ceux qui s'appellent aujourd'hui les Tchèques. Et la deuxième nouvelle ville, allez-vous dire dans tout cela, Naljovské hory. C'est une toute petite commune qui se trouve en Bohême du Sud, dans la région des monts de la Šumava. Après la décision du début du mois d'octobre de la Chambre des députés, le conseil municipal a eu du pain sur la planche, car il a été obligé de commander de nouveaux formulaires, de nouveaux cachets, enfin tout ce qu'une municipalité a besoin pour son administration. En effet, cette commune montagnarde vient de retrouver son statut de ville après 60 ans. Aujourd'hui, elle compte dans les 1200 habitants et voudrait bien retrouver son importance locale, celle qu'elle possédait avant d'être reliée à d'autres communes des alentours dans le cadre de la réunification des communes par l'administration du régime communiste dans les années 1950. Aujourd'hui, l'objectif principal du conseil municipal est d'attirer les investisseurs, aussi bien dans le secteur industriel que dans le tourisme. La région montagneuse, la proximité de l'Allemagne et la facilité d'accès de la région devraient s'y prêter parfaitement. La commune, tout comme la région, pense aussi présenter des projets qui pourraient attirer les moyens financiers des fonds européens. Eh bien, c'est ainsi que notre présentation de deux nouvelles villes tchèques se termine dans notre guide touristique de cette semaine. Rendez-vous pour une prochaine édition.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 21.